Histoire, actualité, comme chaque vendredi dans la Fabrique de l'Histoire. Actualité, des liens entre histoire universitaire et recherche, et de l'autre côté, la société, en l'occurrence la société polonaise. Actualité, des parutions également. Yann Gross sera le premier invité de cette émission dans la première partie. Il est historien de la Shoah en Pologne. Il était de passage à Paris il y a quelques temps et nous l'avons interrogé sur la polémique au cœur de laquelle il se trouve en Pologne avec le gouvernement polonais actuel qui tente ou menace de lui enlever une décoration qui lui a été remise par un précédent président polonais. Ensuite, nous aurons dans la deuxième partie de cette émission Philippe Artière. Il est historien, directeur de recherche au CNRS. Il vient de publier deux ouvrages qui sont faits d'une certaine façon, mais il ne raconte pas la même histoire, de collage de textes, l'un à partir des petites annonces du supplément Sandwich de Libération, le supplément des années 80. Il est titré Miette et il est publié chez Vertical, et l'autre composé d'archives familiales et bien plus, et il est publié dans la collection Fiction et compagnie au Seuil et titré Au fond. Yann Gross, bonjour.
Bonjour.
Et merci d'être avec nous en studio à Paris. Vous venez d'ailleurs pour une conférence que vous allez donner, un débat, une discussion autour de votre travail à l'École des hautes études en sciences sociales. Et nous avons profité de votre passage pour vous interroger. Vous êtes dans l'actualité bien malgré vous d'une certaine façon, mais vous avez l'habitude en tant qu'historien d'être dans une actualité au bout du compte.
Oui, dès la publication de mon livre voisin, qui fut publié en Pologne en l'an 2000. En effet, il est devenu le sujet d'un débat public. Alors, d'une certaine façon, j'ai l'habitude.
Oui, alors vous êtes professeur à Princeton, vous êtes donc polono-américain, double nationalité, c'est cela ?
C'est ça, oui.
Vous enseignez donc à Princeton et vous travaillez sur la Seconde Guerre mondiale et la Pologne. Alors, soit sur ce qui s'est passé dans les camps donc nazis qui se sont installés sur le territoire de l'ancienne Pologne, soit sur les Polonais eux-mêmes et leur attitude pendant la Seconde Guerre mondiale. Les voisins, il faut peut-être le rappeler pour tous ceux qui ne l'auraient pas lu, est un livre important parce qu'il marque, comme d'autres grands livres, des sortes de buts témoins qui nous rappellent que, eh bien, la recherche évolue, la recherche avance. Et ce livre était une façon pour vous de dire, on a longtemps cru que certains des massacres qui avaient été provoqués et exécutés vis-à-vis des Juifs en Pologne l'avaient été donc à l'instigation des nazis. Et vous avez découvert, par vos travaux historiques, Yann Gross, que ça n'était pas le cas dans un village qui s'appelait Jedwabne.
En effet, l'instigation est venue des Allemands qui ont occupé ce territoire, naturellement. L'instigation dans le sens qu'ils ont commencé de tuer les Juifs partout déjà, c'était au moment où ils ont commencé leur guerre contre l'URSS.
En 1941.
En 1941, oui. Comme vous savez très bien, Hitler et Staline ont fait un pacte en 1939. Ils étaient de facto alliés et la moitié de la Pologne était occupé par les soviétiques pendant presque un an et demi. Et alors ce village-là se trouvait dans la zone d'occupation soviétique. C'est là que, quand les Allemands ont commencé leur guerre contre l'Union soviétique, alors c'était le vrai commencement de la Shoah.
Et donc c'est en juillet 1941 et des voisins, oui, voisins polonais de ces juifs qui sont polonais aussi viennent massacrer ces juifs, et c'est ce que vous racontez dans Les Voisins, ce qui a une importance parce que d'abord il montre l'intrication des populations entre elles, leur proximité, et votre livre a eu aussi une deuxième importance, c'est qu'il a servi pour d'autres cas de génocide, pour montrer que l'on pouvait, comme au Rwanda, aller massacrer des voisins que l'on connaissait très bien et que c'était, dans un contexte particulier de mise en place d'une structure génocidaire, c'était une possibilité. C'est ce que vous avez montré pour le cas polonais de 1941, Yann Gross.
Oui, vous l'avez raconté très bien. Et ce qui était pour moi une découverte, et ce qui aussi, je pense, avait un effet de choc pour le public, c'était pas seulement de dire que c'est les voisins qui ont tué les voisins, vous savez, parce qu'on savait très bien que pendant cette première phase de la guerre, Il y avait des pogroms où la population locale a tué les juifs dans le contexte où l'armée hitlérienne est arrivée et les Allemands ont commencé de tuer les juifs aussi. Mais ce qui était très intéressant dans ce cas-là, c'était que cette action a eu lieu dans un territoire qui était pas ethniquement mixte. Ce qu'on savait auparavant, c'était que dans les régions, il y avait des Ukrainiens, des Lituaniens, mais aussi des Polonais. C'est là où les tensions entre les ethnicités étaient, d'avant la guerre, assez
fortes.
Oui, c'est là que des épisodes comme ça ont eu lieu. Et dans le cas de Yedvabne, c'était seulement la population polonaise et juive. Et alors, un pogrom où les Polonais ont tué leurs voisins. Voilà, ça c'était nouveau.
Et alors c'était nouveau, tellement nouveau que c'est devenu un véritable débat dans la société polonaise au début des années 2000, qu'il y a eu dans tous les journaux, et Gazeta Wyborcza en tête, mais tout un tas d'autres journaux ont débattu de cette question-là. Les historiens polonais eux-mêmes ont été enjoints par la population de prendre position, de dire est-ce que Jan Gross a raison ou est-ce qu'il a tort. Les hommes politiques ont commencé à réfléchir à ce que vous aviez proposé, et il y a eu un véritable débat très ouvert, très libre, dans la société polonaise qui se dotait à ce moment-là de structures, comme des structures comme l'Institut de la mémoire nationale, oui. Qui avait justement pour but de réfléchir au passé communiste, mais oui. aussi au passé nazi, et de mettre au clair ce qui s'était passé dans l'histoire troublée de la Pologne des 70 dernières années. Donc il y a eu un véritable débat et vous avez été au cœur de ce débat, Jan Gross, à ce moment-là.
Oui, c'était vraiment incroyable. Le livre est apparu en mois de mai et c'était seulement vers la fin de novembre, commencement de décembre, qu'il y avait une explosion vraiment de débat. Mais quand le débat a commencé, alors pendant 6 mois, il y avait un débat extraordinaire.
Alors, écho de ce débat, un documentaire qui avait été réalisé en 2003 par Aurélie Nuneau sur France Culture. Elle avait rencontré plusieurs des personnalités qui avaient pris part à cette discussion, à ce débat. Par exemple, oui. Michel Tchaïkovski, qui est un prêtre et qui explique pourquoi il a été obligé, dans une église polonaise qui était gênée aux entournures par ce qui était dit dans votre livre, Jan Gross, de réagir favorablement à votre ouvrage.
Moi, comme prêtre, je me sens vraiment offensé par l'attitude de mes confrères. Sûrement, la position du curé de Jedwabne et de l'abbé Jankowski n'est pas la position de l'Église catholique en Pologne, n'est pas la position des évêques polonais. Vous savez que l'évêque de Gdańsk, archevêque Gosłowski, il y a quelques années, a interdit au père Jankowski de parler publiquement. Malheureusement, à Jedwabne, il y a un curé qui a le soutien de son évêque de Łomża. Je disputais avec le curé de Jedwabne, il est bon prêtre, mais il est convaincu que ce sont les Allemands qui ont fait cette crime parce qu'il parle avec des antisémites, il reçoit la littérature antisémite, alors il est sûr que le paroissien était tout à fait innocent. Vous savez, il y a aussi des autres prêtres qui sont contre le livre de Jan Gross.
Alors, ce livre provoque un débat, on vient de le dire avec vous, Jan Gross, provoque des tensions à l'intérieur de corps sociaux, l'église polonaise elle-même, avec des gens qui prennent parti pour et contre. Et au bout du compte, il faut argumenter. Quand on est historien, on a l'habitude d'argumenter, mais on argumente vis-à-vis de ses confrères, vis-à-vis des universitaires qui sont vos pairs. Là, il faut argumenter avec une société tout entière qui est enflammée par votre livre. Comment faites-vous à ce moment-là, Jan Gross?
Vous savez, ce qui m'a troublé au commencement, c'était au moment où ça s'est devenu une affaire qui était discutée dans les médias. J'ai compris que les gens n'ont pas vraiment accès au texte. Ce qu'ils savent, ce sont des interprétations des interprètes seulement. Alors, je demandais à mon éditeur de mettre ce livre dans la forme électronique, si vous voulez, sur leur website, site, oui. Ce qu'il avait fait. Et alors, chacun qui avait
un ordinateur
pouvait lire le livre sans aucun frais. Mais c'était encore une période où les ordinateurs et cette technique n'étaient pas très fréquentes, si vous voulez. Alors, j'ai fait un résumé de ce livre qui était, le livre était très petit, mais moi, j'ai fait une abréviation de à peu près la moitié de ce livre. C'est ce que j'ai fait. Et un journal quotidien qui s'appelait Jeuxpospolita, la République, ils ont attaché 2 ou 3 pages dans leur édition de dimanche un jour. Alors, il était assez facile pour les gens de se procurer du texte. Alors, c'était ma façon d'intervenir dans la discussion, si vous voulez. De temps en temps, je participais au débat, mais à mon avis, c'était le temps pour les gens, les lecteurs, de parler et d'exprimer leurs opinions. Et pour moi, seulement quand il y avait des bêtises totales qui...
Il fallait peut-être de temps en temps les rectifier, ouais. Mais sinon, ouais, laisser le débat s'installer. Un débat, ouais, qui était un débat parallèle à l'entrée de la Pologne dans l'Europe. C'était un débat important puisque c'était un débat qui entrait aussi dans la relation que la Pologne pouvait avoir avec le reste de l'Europe. Comme l'expliquait à Aurélie Luneau en avril 2003 dans La Fabrique de l'Histoire, Constantin Gaber.
La chose principale, de mon point de vue, c'est l'auto-perception même que la Pologne a d'elle-même qui commence à changer. Et comme l'a dit si bien Joanna Tokarska-Bakir dans son texte, que, par ailleurs, qui a reçu de nombreux prix et qui me semble absolument fondamental au débat, elle a dit que bon, c'est le mythe de la Pologne seulement innocente et martyre est mis à la retraite une fois pour toutes, et sur cela tout le monde est bien d'accord. Mais puis elle dit une autre chose tout aussi importante, et c'est très bien ainsi. C'est très bien ainsi parce que finalement, non seulement on pourra se voir en face au miroir, mais aussi finalement on pourra commencer à comprendre ce que les autres nous racontent. Parce que cette vision de la Pologne seulement innocente et martyre est en conflit total avec la perception de la Pologne faite par tous ses voisins. Sauf les Allemands, bien sûr, parce que là les relations sont différentes. Mais les Lituaniens, les Biélorusses, les Ukrainiens, les Slovaques, les Tchèques ne voient pas la Pologne de même œil.
Alors cette réaction de Constantin Gaber, Yann Gross, vous la connaissez bien, ça permet de relier le passé de la Pologne en plein milieu de la Seconde Guerre mondiale à la Pologne d'aujourd'hui, en l'occurrence la Pologne du début des années 2000. Mmh. Et d'un seul coup, l'historien que vous êtes s'aperçoit que son travail n'est pas simplement un travail d'archives, mais c'est un travail qui renouvelle la vision que le pays peut avoir de lui-même.
Bien sûr, mais vous savez, comme quelqu'un, je ne me souviens plus, c'est un grand penseur, avait dit, le passé, on découvre que le passé n'est pas même passé, vous savez. Le passé ne passe pas. Et en effet, c'est une histoire très profonde, si vous voulez, dans l'expérience historique de la Pologne. La Shoah, en Pologne, c'est un moment tout à fait extraordinaire, pendant lequel 3 millions, même un peu plus, des citoyens polonais, qui sont d'origine juive, sont tués pendant une période assez brève, et d'une manière extraordinairement violente. Parce que ce qu'on doit se rappeler, c'est que la Shoah, à l'est de l'Allemagne, n'a pas eu lieu exclusivement dans des chambres à gaz, vous savez, et dans l'anonymité relative des camps
d'extermination.
Les Allemands, ils tuaient les Juifs partout. Et quand les ghettos étaient vidés, on voyait tout. Et ça a duré pendant des semaines, ça se répétait. Et alors cette violence était partout, les gens voyaient, savaient tout, Et ont participé d'une manière, malheureusement, comme on a vu dans le cas de Yad Vabne, directe, mais aussi d'autres manières de participation et de complicité ont été enregistrées dans ce cas-là.
Alors, vous avez d'une certaine façon inauguré un débat, une discussion, mais les historiens vous ont suivi et vous avez continué à travailler sur ces sujets-là, en travaillant sur l'antisémitisme en Pologne après Auschwitz, après donc ces débats autour de ce premier livre, ouais. Les Voisins. Vous avez continué avec Les Moissons d'Or, oui. Donc sur la question de l'aryanisation sauvage, ouais. Dans cette même Pologne, avec Irena Grudzińska-Gross, qui travaillait avec vous à ce moment-là. Et vous avez révélé au peuple polonais une partie de son histoire. On vous en a remercié d'une certaine façon, puisque le président vous a remis une médaille du mérite, et ce qui vous a aussi coûté d'une certaine façon, parce que une partie de la population polonaise, des intellectuels, mais pas simplement, considère que vous avez sali la mémoire, ou l'histoire, l'histoire de la Pologne, ouais. Et le pays lui-même. Ouais. Comment cela s'est-il passé? Avez-vous perçu cette évolution du regard porté sur vous en tant qu'historien au fur et à mesure où vous publiez ces livres, Yann Gross?
Oui. Il y avait des gens qui étaient très, si vous voulez, reconnaissants, comme Tchaïkovski qui a parlé. Parce que on doit parler la vérité en histoire. Et c'est une chose qui est vraiment très importante.
Mais au bout du compte, on vous a donné raison, oui. L'Institut de la mémoire polonaise.
C'est ça ce que je veux dire, oui.
Qui donc était là pour pouvoir tenter de faire un travail historique sur le passé douloureux de la Pologne, oui. A dit, bah, peut-être sur certains points, un chiffrage un peu élevé de Yann Gross, mais au bout du compte, ce qu'il dit est exact, etc. Donc d'une certaine façon, vous aviez gagné la partie dans cette première manche, pourrait-on dire. Mais c'est comme un match de football américain un match de football.
Il y a un tiers de la population qui est complètement incapable de d'accepter ces vérités, si vous voulez, et cette vérité.
Et aujourd'hui, c'est elle qui, d'une certaine façon, a élu une partie du gouvernement qui est à la tête de ce pays. Exactement. Et qui vous menace en tant que chercheur, Yann Gross, oui. De vous retirer cette médaille obtenue en 1996 du mérite. Mais mettez-nous au clair, oui. En fait, elle ne vous a pas été retirée, cette médaille.
Non, pas encore. Mais en plus, il faut dire que je suis aussi menacé d'une persécution judiciaire, vous savez.
Une plainte judiciaire.
Oui, alors on m'a... on est en train de décider si je vais être accusé du crime de lèse-nation. C'est du crime, c'est un crime très sérieux, inventé pendant la Révolution française. Il y a beaucoup de têtes qui sont tombées à cause de ce paragraphe ici. Mais ils n'ont pas encore décidé s'ils vont poursuivre ça. Alors c'est si vous voulez, c'est sérieux, mais ce qui est vraiment sérieux, ce n'est pas tellement pour moi, mais c'est pour les intellectuels de la Pologne. C'est un moment où apparemment les historiens et les chercheurs, les intellectuels en général qui travaillent sur leur sujet peuvent être poursuivis.
Pour ce qu'ils disent.
Pour ce qu'ils disent.
Et pour ce qu'ils écrivent. Alors, vous êtes nombreux néanmoins à travailler sur cette période historique. Il y a quelque temps, nous recevions à notre micro Jan Grabowski, qui travaille sur cette période historique. Quel est, selon vous, le danger pour la recherche elle-même? Est-ce qu'on entrave les travaux des chercheurs? Oui ou non?
Vous savez, une des conséquences positives de la publication de Voisins était un milieu des historiens s'est lancé à la recherche de cette période, de ce problème. Et le résultat est que maintenant, dans l'Académie des sciences polonaises, il y a un centre de recherche sur la Shoah qui est vraiment formidable. Ils ont publié une dizaine de livres, ils publient un grand journal chaque année avec leurs recherches. Alors c'est l'historiographie de la Shoah est faite en Pologne dans ce moment-là. Et il y en a beaucoup de choses qui se passent aux alentours, si vous voulez. En anthropologie, ethnographie, la critique littéraire, mais aussi dans les arts. Par exemple, les films qui ont été faits. Le film qui a reçu Oscar il y a a 2 ans, Idab, mais aussi d'autres productions très bien. Ça a ouvert le
débat, la discussion.
Le débat, vraiment.
Et la création aussi.
Et la création. Mais en effet, ce qui se passe maintenant, c'est ce nouveau régime. C'est un régime qui est très bien informé sur des manières, si vous voulez, des régimes totalitaires, parce qu'on a vécu en Pologne un régime totalitaire, et on sait aussi, et c'était la pratique de régimes communistes, que pour contrôler tout, pour contrôler le présent, pour contrôler le futur, il faut aussi contrôler le passé. Et voilà, c'est ça ce qu'ils sont en train de faire, vous savez, de réécrire l'histoire.
Mais cela, c'est une pratique que l'on peut remarquer dans d'autres pays d'Europe centrale ou de l'Est, mais également dans nos démocraties occidentales. Ouais. Ces questions de ce qu'il faut dire ou ne pas dire, comment ne pas toucher à la mémoire nationale, on le sait bien, pour des conflits comme la Seconde Guerre mondiale en France, ou comme la guerre d'Algérie et les guerres coloniales. Oui, oui. Ce sont des questions qui sont toujours très vives et très aiguës dans le débat public. Qu'est-ce qui fait la particularité de la situation d'aujourd'hui, selon vous, Yann Gross?
Vous savez, je pense que c'était Albert Camus, l'homme révolté, qui disait, Monsieur Homais, l'apothicaire de Flaubert, de Madame Bovary, il est ridicule, mais il n'est pas ridicule quand il a un contrôle de la police. Et c'est la différence entre débats sur des questions pareilles, qui sont toujours légitimes et très intéressantes. Mais ici, vous avez quelque chose complètement différent. C'est un régime qui prend contrôle de tous les instruments de répression. Ils sont en train de contrôler le judiciaire et naturellement, la police est maintenant complètement dans leur domaine. Et ils donnent des ordres. Ils donnent des ordres de changer la politique dans le domaine de l'éducation. Et tout ça, malheureusement, c'est dans le contexte d'un nationalisme très radical et d'un langage de mépris vis-à-vis ceux qui pensent autrement.
Mais cela doit être difficile ou délicat pour vous, parce que vous voyez que malgré les travaux pédagogiques qui ont pu être faits par vous ou par d'autres historiens polonais ou non sur cette période historique, ça ne passe pas dans une partie de la population. Qu'est-ce qui pourrait faire qu'au bout du compte, on puisse à la fois raconter cette histoire telle qu'elle s'est passée et ne pas être accusé de salir le pays, parce qu'au bout du compte, il y a une dimension morale d'un côté, une dimension de savoir et de connaissance de l'autre, Yann Gross.
Vous savez, être accusé de salir le pays, comme on l'a fait dans mon cas, pas littéralement, parce que je ne suis pas accusé encore, mais en effet, dans la presse, si vous voulez, ça, ce n'est pas tellement important. Ce qui est important, c'est une autre chose. Il me semble qu'en Pologne, déjà, la connaissance de cette période, parmi les gens qui font de recherche et les artistes qui s'intéressent de ça, etc., l'élite, si vous voulez, ça, c'est fini.
C'est passé.
C'est bon. Passé.
C'est bon. Passé dans la discussion.
C'est
et dans
passé
le débat.
Dans la discussion et on ne peut pas retourner. La connaissance est là. Mais ce qui est vraiment dramatique, c'est le reste de la population et la pédagogie que l'État, malheureusement, peut organiser d'une manière presque monopoliste. Actuellement, les gens peuvent lire des livres, mais on ne lit pas des livres en Pologne, vous savez. Il y avait des résultats d'un sondage, oui, et apparemment 60% des Polonais n'ont pas lu aucun livre l'année passée. Alors, je vais vous dire un petit détail qui est, à mon avis, absolument dramatique. On a fait des sondages pendant une quinzaine d'années sur la population entière. Les agences sociologiques sont très bien en Pologne, ils savent comment le faire. Et la question qu'on a demandée était que la suivante. Qui a été victimisé de plus pendant la guerre mondiale? C'est les Juifs ou les Polonais? Et chaque fois que ce sondage fut pris, entre 2/3 et 3/4 de la population polonaise a répondu ou que les Polonais ont été victimisés de plus, ou que les Juifs et les Polonais ont été victimisés au même degré, ou qu'ils ne savaient pas. Alors, imaginez qu'est-ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'en Pologne, où 3 millions de Juifs ont été tués, deux tiers jusqu'à trois quarts de la population ne sait pas qu'est-ce que c'est la Shoah. Parce que si on savait qu'est-ce que c'est la Shoah, on devrait être un idiot complet de dire « Ah oui, bien, c'est les Polonais et les Juifs vont se faire à peu près les mêmes ».
Et puis, il y a tout de même la création d'un musée à Varsovie sur les Juifs de Pologne. Et on dit et on répète, c'est d'ailleurs souvent l'argument qui est utilisé par le gouvernement actuel, c'est tout de même le pays au monde où il y a eu le plus de justes parmi les nations, de gens qui ont sauvé les Juifs. Mmh. Donc, pourquoi ne fait-on que montrer le massacre de masse et des Juifs de Pologne, alors qu'on ne met pas de l'autre côté le fait qu'ils ont été les plus nombreux à sauver les Juifs, Yann Gross. C'est un argument qu'on entend très régulièrement.
On entend cet argument tout le temps, mais c'est un argument qui est assez...
fallacieux.
Pardon, fallacieux, oui, il est fallacieux. Je veux vous dire pour quelle raison. Mais premièrement, il y en a plus de justes en Pologne que n'importe où, parce que la population juive en Pologne était la plus grande en Europe. Mais d'une manière, il y avait 3 300 000 de juifs en Pologne, en tant qu'en France, il y avait combien 150 000 peut-être, dans d'autres pays, c'est le même. Alors c'est le premier aspect. L'autre aspect est que les justes en Pologne, c'était des gens qui étaient des parias dans leur propre société. Ils étaient en danger de mort, premièrement parce que leur voisin était en train de regarder toujours autour de lui qui est celui qui cache les Juifs. Parce que c'était contre les normes sociales de porter l'aide aux Juifs. Il faut le dire, et c'est le gouvernement ne jamais publie cet aspect.
Comment peut-on imaginer l'évolution des situations, de la situation telle qu'elle est aujourd'hui dans ce pays à propos de ces questions justement de Seconde Guerre mondiale? Je sais qu'un historien est capable de prédire le passé, mais il n'est pas capable de prédire l'avenir, Yann Gross. Mais néanmoins, qu'est-ce que vous voyez, surtout dans un contexte où on voit bien des durcissements semblables dans d'autres pays d'Europe, et pas simplement dans des pays d'Europe centrale ou orientale, un peu partout, des idées qui se propagent, selon lesquelles, effectivement, il ne faut pas porter atteinte à l'honneur d'un pays, d'une population, pendant cette période de la Seconde Guerre mondiale, Yann Gross.
Vous savez, il faut comprendre, il me semble, et d'une certaine manière, ce n'est pas très difficile de comprendre ça, que les gens... sont de mauvais caractère assez souvent, et que des situations où les voisins se tuent entre eux, ce n'est pas un monopole de Polonais tuant les Juifs. C'est une chose qui arrive tout le temps dans tous les contextes imaginables. Si on regarde ce qui s'est passé en Yougoslavie, par exemple, dans les années 90, cette guerre de décomposition de Yougoslavie, où les voisins qui étaient mariés entre eux, ou en Rwanda, par exemple, le Tutsi. Alors, ça arrive toujours. Et il faut comprendre que dans des contextes où on encourage, où on profite des préjugés des anciens, il est très facile de mobiliser une population. Et aussi, quand il y a des possibilités de gagner matériellement, ce qui s'est passé en Pologne, naturellement, c'était les Allemands, les nazis, qui ont pris les choses les plus valables des propriétés de Juifs. Mais en effet, la population qui vivait avec les Juifs partout en a profité énormément aussi. Alors, c'est un contexte dramatique qui permet aux Polonais de dire « Mon Dieu, une chose terrible est arrivée, nous ne sommes pas différents dans ce sens que les gens dans d'autres parties du monde. Il faut reconnaître ce qui s'est passé. » Et c'est tout. Pour le moment, il n'y a rien d'autre à faire, parce que les gens qui en étaient coupables directement de tueries et d'autres choses terribles qui se sont passées dans ce temps-là, ils sont déjà morts. Ce sont des générations qui ont passé. Alors, si vous voulez, si par exemple, si l'Église aurait accepter ce fait. On peut faire des gestes très simples. Dans chaque village polonais, et dans la plupart de ces villages, trois quarts de la population, c'était des juifs. Les juifs, c'était la population qui était située dans les urbaines, vous savez. Mmh. Et il y a des dates qu'on peut identifier un peu arbitrairement, mais les dates où le ghetto fut expulsé, où les juifs ont été tués directement dans la proximité du village. Alors, il y a des dates qu'on peut attribuer au moment de la tragédie, s'il vous plaît. Et disons que dans chaque village comme ça, le curé va sonner l'église le 19 de novembre ou le 15 mars pour tout simplement se pencher sur la mort des gens qui autrefois vivaient dans notre village. Et ça aurait purifié l'air d'une manière extraordinaire, il me semble.
Ce qui malheureusement n'est pas le cas selon vous. L'air n'est pas purifié, en l'occurrence, aujourd'hui.
Malheureusement.
Et au contraire, si on faisait cela aujourd'hui, est-ce que vous ne craignez pas un redémarrage encore plus vif, peut-être, de ce nationalisme, voire de cet antisémitisme, au bout du compte? Parce qu'on dirait, on en a marre qu'on nous raconte ces vieilles histoires, comme on entend parfois ici, à propos de la Seconde Guerre mondiale, Yann Gross.
Ouais. Oui, les gens, j'espère qu'ils vont changer, j'espère que l'influence de l'Union européenne et de perspective qui est tout à fait évidente, qu'il faut qu'on est différent, qu'il faut tolérer des différences, qu'il faut voir qu'on peut vivre ensemble, même si on parle différemment, les langues ne sont pas les mêmes, si on croit au Dieu d'une manière différente, eh bien, il est possible de vivre ensemble. Espérons que cette conscience va pénétrer dans la société polonaise.
Eh bien, je vous remercie beaucoup, Yann Gross, d'être venu apporter cet espoir, donc de la capacité qu'un savant peut avoir à introduire des débats dans la société qui l'intéresse, mais également à peut-être faire évoluer les mentalités. En tout cas, merci d'être venu.
Merci bien pour votre invitation. Merci.
France Inter, 19h55.
Avec ou sans vous, l'emprunt d'État janvier 80 sera souscrit très vite, pour quatre très bonnes raisons. La garantie de l'État, le régime fiscal des obligations, 6 ans, et oui, 6 ans, et 12% l'an. Vous avez bien entendu? Réagissez vite, avant le 17 janvier. Cet emprunt sera clos sans préavis. Les établissements financiers, les comptables publics et les banques vous renseigneront sur chacune de ces très bonnes raisons.
Le bulletin de la météo marine. Coup de vent 8 à 9 Beaufort de sud-ouest, puis d'ouest, nord-ouest. En cours ou imminent sur Ouest-Écosse, Nord-Irlande. Prévu vers le milieu de la nuit sur Ouest-Irlande.
Voilà donc une archive du 4 janvier 1980 pour introduire la discussion que nous allons avoir avec vous, Philippe Artière. Bonjour.
Bonjour.
Pour les deux livres que vous publiez en même temps, qui sont, je l'ai dit, qui peuvent apparaître en tous les cas comme deux collages de textes différents. Un très personnel, celui qui s'intitule Au fond, qui est publié chez Fiction et Compagnie, dont on va parler dans très peu de temps, et le deuxième qui s'intitule Miette et qui est composé de ces petites annonces qui étaient publiées dans le supplément Sandwich de Libération au tout début des années 80. Alors là, vous venez d'entendre un son d'une radio d'État. On entend l'emprunt d'État, on entend la météo marine. Vous, c'est autre chose que vous avez traqué dans ces petites annonces de Libération, Philippe Artière.
Oui, ce qui m'a intéressé justement dans ces petites annonces d'un supplément qui n'a duré qu'une année, hein, et qui s'est arrêté pour pas mal de raisons, à commencer aussi par la nature et la liberté de ton de ce qui était énoncé, ce qui était non seulement énoncé mais inscrit, imprimé. Parce qu'il s'agit bien, dans les deux cas, dans les deux livres, d'accrochage d'écrit. C'est ça qui m'intéresse depuis longtemps. C'est ce que Foucault appelait de pures existences graphiques. C'est ça, c'est qu'est-ce que c'est qu'à un moment donné, prendre l'écriture et envoyer ou déposer une petite annonce à Libération pour parler de soi, mais pour parler, et on l'a bien entendu dans l'archive, pour parler d'un désir d'avenir. C'est-à-dire, c'est un futur antérieur finalement, la petite annonce de Sandwich aujourd'hui.
Alors Sandwich, c'était donc ces petites annonces qui, vous l'avez dit, ont été publiées pendant un an dans Libération et qui sont à la fois des annonces de tolard, de rencontres sexuelles pour beaucoup d'entre elles, mais pas simplement, de désir de voyage vers l'ailleurs, de partir ensemble avec des gens qu'on ne connaît pas dans un trek, on n'appelait pas ça encore un trek d'ailleurs au début des années 80, dans un voyage sac à dos en Asie ou en Amérique latine. Enfin voilà, c'est tout cela qui étaient les petites annonces de Libération.
Alors effectivement, on peut dire que ce supplément de Sandwich, il vient, et on reviendra sur la catastrophe après, il vient sur un moment, je dirais, de basse intensité. De basse intensité, enfin non pas historique, puisque il faut jamais oublier que, et je le rappelle au début avec une chronologie très violente, notamment c'est le début de la guerre, il y a deux grandes guerres qui s'ouvrent là, c'est celle d'Afghanistan avec l'armée rouge et le grand conflit Iran-Irak.
Bien sûr.
Donc on est dans ce moment-là et c'est juste avant la pandémie du SIDA. Ce qui m'a, enfin depuis longtemps, tout à fait intéressé dans Sandwich, c'est que Sandwich n'est pas un supplément comme pourrait être aujourd'hui un site de rencontre. Sandwich, on balaye l'ensemble, je dirais, de ce qui peut s'échanger, se monnayer, même pas se monnayer, se donner. C'est le troc, c'est aussi le plaisir de s'écrire. Alors, de fait, il y a des chroniques, il y a des rubriques, plus exactement, qui sont des rubriques qui ont disparu, comme Tolard, et qui ont fait la spécificité de ce supplément. Tolard, c'était donc des détenus qui pouvaient écrire et demander des correspondants, un job pour leur sortie. Et puis il y a des choses qui apparaissent plus, je veux dire, classiques et en même temps qui ont fait aussi quelque chose on produit quelque chose de nouveau et qui sont très représentatifs de cette époque parce que c'est le moment où commence à paraître Guépier, le seul journal gay qui a vraiment véritablement existé à la fin des années 70. Et ce sont toutes ces annonces, non pas autour de la liberté sexuelle, mais des sexualités, comme on dirait aujourd'hui. Alors, avec des sexualités, ça veut dire aussi, ça sera une des raisons pour lesquelles Sandwich disparaîtra, ça veut dire aussi des sexualités avec des enfants. Ça veut dire aussi toutes sortes de pratiques qui s'inventent.
Oui, je suis pas SM, je suis pas scato, je pratique pas l'ondinisme, mais j'aime bien la bonne baise. J'ai 30 balais, une gueule sympa, merci maman, dit la claviste, celle qui tapait les textes, effectivement. Un chouette appart et assez de blé pour me marrer. Beau gosse de moins de 30 berges, balancez-moi une bafouille avec votre portrait, par exemple. Voilà, ça c'est une petite annonce.
Alors ça c'est une petite annonce qui est, dont on peut voir à la fois qu'elle est un autoportrait, et un autoportrait sans doute magnifié, sans doute un peu trompeur, qui est dans la séduction. Mais toutes les annonces, y compris des annonces, puisqu'il y en a beaucoup, sur une histoire matérielle qu'on oublie, Oui. Dont on a oublié
canapé,
même plein
vend,
de...
Vend son frigo, etc., etc.
Oui, ou des éditions, ou par exemple, l'édition, les œuvres complètes de Lénine, je les vends, c'est pas parce que ça m'intéresse pas, mais c'est que j'ai pas d'argent. Mm-hmm. Donc il y a tout ça, mais en même temps, ça c'est aussi ce moment de basculement, j'ai dit c'est avant la catastrophe, mais c'est aussi la fin d'un moment qui est ce moment d'ouverture qu'il faut pas non plus
magnifier.
Et je trouve que de ce point de vue-là, Sandwich et la manière dont on peut lire aujourd'hui Sandwich, puisque c'est le projet du livre, ce n'est pas Sandwich, c'est comment on peut travailler avec ce matériau bien particulier que sont les petites annonces de ce quotidien né en 1973, avec pour base, il faut jamais l'oublier, le journal des lecteurs. Mm-hmm. Et donc ce sont des événements qui sont des micro-événements, qui sont même presque, enfin, dans un en deçà de l'histoire.
Oui, ça, c'est ce qui vous a toujours intéressé, en l'occurrence en tant qu'historien, Philippe Artière, c'est cet en deçà de l'histoire, ce sont les écrits ordinaires, c'est la capacité un peu démiurgique aussi de l'historien à leur donner du sens. C'est-à-dire que si n'importe lequel d'entre nous se plonge dans un supplément de Libération Sandwich, il ne verra pas comme vous qu'il y a là une dimension politique, dites-vous, parce qu'il trouvera cela amusant, telle petite annonce de sexe, telle petite annonce de « Vends ma deux chevaux » ou « Ma Citroën » ou « Mes éditions de Lénine », et pas beaucoup plus que cela. Donc il y a aussi une dimension où l'historien se veut démiurge, il met en ordre ce désordre apparent que sont ces petites annonces de Libération.
Oui, ça, je crois que, enfin, si je parle d'accrochage et je tiens à ça, c'est bien parce que j'ai travaillé sur je trouve que les éditions verticales ont fait un beau travail de ce point graphique de ce point de vue-là. Je travaille sur comment. Comment ces existences graphiques se répondent, s'articulent, et comment on peut aussi, nous, aujourd'hui, à distance, y voir peut-être ce qui serait une mosaïque du début des années 80.
Alors, c'est cette question d'accrocher aussi d'autres écritures qui vous sont plus proches, de pointer des écrits ordinaires qui sont des comptes rendus de plantations de sapins dans l'est de la France, qui sont des manuels d'utilisation justement de la façon dont on coupe les arbres justement dans ce même est de la France, ou des règlements du travail dans la descente de la mine. C'est ce que vous faites dans un autre ouvrage que vous publiez en même temps, Philippe Artière, qui s'appelle Au fond, dans la collection Fiction et compagnie au Seuil, et qui, d'une certaine façon, répond à ce projet de miette. Ça paraît en même temps, ça n'est sûrement pas un hasard, parce que c'est aussi un collage de textes, c'est aussi une capacité que vous avez de donner du sens à des objets qui sont épars, mais à qui que vous rassemblez. Là, évidemment, de façon plus personnelle, puisqu'il s'agit de la mort de votre frère, que vous racontez dès le départ, et en montant à rebours dans cette histoire, vous interrogez votre mère, vous mélangez avec ce témoignage transcrit de votre mère tout un tas d'objets et d'archives, familiales ou pas, qui donnent un sens, pour vous en tous les cas, Philippe Artière.
Oui, je crois que vous avez à juste titre utilisé le terme de démiurgique. Le livre est très ambitieux, puisque il s'agit de croiser trois histoires, et ça commence effectivement par une parole qui n'est pas mienne, qui est celle transcrite de ma mère. On reviendra peut-être sur la méthodologie du livre, sur un événement qui, pour moi, était un événement personnel et qui s'est avéré, à la sortie du livre, en fait, un événement social pour ma génération. C'est-à-dire que je pense que je suis la dernière génération, je suis né en 68, jusqu'en 70, la mortalité infantile est très grande. Mmh. Et donc, je me suis aperçu que bon nombre de mes amis autour de moi avait cette histoire familiale. Et que finalement, jusqu'en 70, les enfants meurent. Les enfants meurent dans nos milieux. Et ça, on l'oublie. Je ne dis pas que les enfants ne meurent pas aujourd'hui.
Bien sûr.
Bien sûr qu'il y a des deuils d'enfants. Mais donc il y a ce premier élément qui est ce qu'on pourrait appeler une histoire personnelle, silencieuse. Et puis il y a un deuxième événement, j'essaye d'articuler une deuxième histoire, qui est l'histoire, puisque tout cela se passe dans un même... Il y a une unité de lieu hein, oui, dans cette absolument. Catastrophe, c'est l'Est de la France, et c'est le bassin lorrain
minier.
Ce bassin lorrain qui a totalement été effacé. Il faut bien dire ce qui est. Quand vous vous promenez en Lorraine, il n'y a plus désormais que quelques cités, mais les carreaux, on ne les voit plus ou très très peu. Et qu'est-ce qui se passe au moment de la mort de cet enfant? En 63, il y a la
grande grève.
Grande grève de 63. La grande grève de 63 et qui est j'aime à citer j'aime à citer le général de Gaulle, qui avait toujours un sens des formules tout à fait extraordinaire et en même temps d'une violence très grande. Il dit grande grève dont il faut préciser que c'est une victoire, c'est-à-dire qu'au Absolument. Bout d'un mois de grève, les mineurs et les mineurs de la France entière obtiennent des avantages et notamment une amélioration
soutenue par leurs femmes. Parce voilà. qu'une grande partie de ce que vous racontez, c'est le combat des femmes de mineurs qui viennent jusque à l'Élysée et qui sont extrêmement déçues de ne pas avoir été reçues par le président
mais
de Gaulle,
mais
par le portier, et qui considèrent que c'est une insulte à leurs conditions de femmes ouvrières.
Alors ça, c'est vrai que c'est le choix que j'ai fait. C'est un livre de paroles de femmes. En fait, vous avez dit, vous écrivez, etc. Je n'écris quasiment rien dans ce livre.
Non, mais vous choisissez.
Je pense que je...
Et donc, en choisissant et voilà. en collant, vous faites œuvre d'écrivain, d'une certaine façon.
Oui, enfin, je fais œuvre d'historien. et pas forcément d'écrivain, puisque pour revenir quand même à cette grève qui est très importante, parce que pourquoi je l'associe, parce que c'est la fin de la mine. Et De Gaulle dit en substance, vous avez gagné, mais sachez que désormais l'heure du charbon, bientôt l'heure du charbon sera passée.
Et vous revenez aussi à l'origine de ce charbon,
voilà.
avec le travail de la forêt de cet Est, forêt qui familialement est liée aussi à votre famille, et vous racontez comment on a construit les galeries de mines avec le bois qui a été planté dans ces forêts vosgiennes, dans ces forêts de l'Est, Philippe Artière.
Alors là, c'est le troisième niveau d'histoire, c'est cette histoire naturelle, c'est d'essayer déconstruire ce paysage. Pour moi, la forêt de mon enfance n'était pas du tout une forêt plantée. Mmh. Et j'ai découvert que, en fait, avant la révolution industrielle, c'était du feuillu. Et qu'on s'est mis à planter des conifères pour construire des galeries.
Galeries de mines.
Avec des tas d'analyses sur la résistance du bois, sur tous ces éléments. Et ce qui m'intéressait aussi, c'était le rapport que mon ancêtre, en l'occurrence, qui était juriste, qui était François Génie, donc un très grand juriste, puisque c'est le père du droit positif, avait à cette forêt. C'est-à-dire que, finalement, là, il y avait sans doute une superposition chez lui entre le droit, c'est-à-dire le temps long, et cette forêt, qui certes était parfois abîmée, traversée par l'histoire, mais qui toujours demeurait.
En particulier pendant la Première Guerre mondiale. Alors, il y a une phrase, tout de même, vous dites « je ne suis pas écrivain », vous écrivez quand même à certains moments de ce livre, et pas simplement en tant qu'historien, vous dites « Paris, septembre 2015, ça n'est pas il y a si longtemps, je note en relisant la première version du livre, il se dégage du texte complet une rudesse, je n'ai pas beaucoup fléché l'itinéraire, faut-il que je polisse toutes les aspérités, que je remplisse le creux, je ne veux pas lisser ces récits pour en faire un, certes, c'est parfois extrêmement rugueux. Le lecteur va parfois se perdre, mais il retrouvera une marque, une pierre, un bout de bois qui le fera avancer. Vous avez, d'une certaine façon, un grand respect du lecteur en pensant qu'il va, dans ce labyrinthe que vous construisez, qui est vraiment la construction de trois histoires qui sont à la fois complémentaires et parallèles, que le lecteur qui n'est pas vous puisse retrouver son chemin.
Oui, quand je parlais d'accrochage, je pense que c'est essentiel, c'est-à-dire que je fais partie de ces historiens qui pensent que faut proposer des itinéraires d'intelligibilité du passé, mais que en même temps, ils sont eux-mêmes les acteurs aussi de cette mémoire. Et par conséquent...
Et que chacun y lira ce qu'il peut y lire et que chacun y rajoutera sa propre histoire quand il lira ce livre.
Oui, il n'y a pas de note de bas de page qui donnerait des clés particulières. Et encore une fois, c'est une histoire, et je redis cette chose-là, c'est que pour moi, c'est une histoire tremblée, c'est-à-dire que l'histoire, elle doit être en permanence ouverte et pas, elle ne doit pas absolument asséner un discours. Et en essayant de mettre ensemble une forêt et une femme. Qui raconte la tempête, parce que il y a, y a la tempête aussi de 99. Il y a l'avion qui s'écrase dans la forêt en 44, au moment du débarquement. Les catastrophes de la mine, dont la fermeture, et aussi, évidemment, au centre, cet enfant qui est... ça va nous faire revenir à Miette, finalement. C'est quoi un enfant ? C'est un lieu de projection. C'est un lieu... c'est là, c'est du désir d'avenir. Et c'est ça qui m'a passionné dans cette enquête, encore une fois, en Lorraine, qui était un retour, je le dis, parce que c'était un retour en Lorraine, sans jamais y être allé.
Oui. Et ce qui est très fort, c'est qu'effectivement, quand on lit ce Au fond de Philippe Artière, on découvre qu'effectivement, il y a le cadavre de cet enfant qui ouvre le livre, et puis il y a tout à la fin le cadavre des arbres. Je ne savais pas qu'on parlait de cadavre d'arbres, et néanmoins, c'est ce que vous racontez dans toute cette histoire de Au fond, Philippe Artière. Je rappelle que vous êtes aussi l'auteur de Miette, paru, lui, chez Vertical. Merci d'être venu. Comme d'habitude, cette émission était préparée par Marie-Vonne Bolivier et Aurélie Marcet. Jean-Frédéric nous a accompagnés à la technique et Anne Fleury à la réalisation. La semaine prochaine, nous vous parlons de villes en mouvement, des villes qui ont changé, qui se sont transformées. On parlera de Chicago un jour, de Paris et de la Seine dont on a beaucoup parlé ces temps-ci dans l'actualité, et les évolutions de la Seine sur deux siècles, entre 1750 et 1900, un siècle et demi. Et puis on parlera également de Bagdad ou d'autres grandes cités qui ont changé tout au long de leur histoire. We'll be right back.